Matin, les GTPM. Nous en avons vu depuis des semaines et des semaines de toutes les couleurs en effet.
Ceci est une alerte d'urgence concernant tous les citoyens du monde. Après les projets de loi Sopa et Pipa, un autre projet tenu en secret voit le jour. Le projet ACTA. Ce projet de loi a été créé dans notre dos par les chefs d'État du monde entier pour nous contrôler encore plus. Ce projet est une prison pour les utilisateurs d'Internet.
Alors, ce qu'on vient d'entendre, c'est un message d'Anonymous contre ACTA. ACTA, autrement dit Anti-Counterfeit Trading Agreement, accord commercial anti-contrefaçon, accord qui engagerait à terme notamment les États-Unis, l'Australie, le Canada, le Mexique, le Japon et l'Union européenne. Il a d'ailleurs été signé le mois dernier par 22 pays d'Europe, dont la France. Il y a des manifestations demain prévues dans tout le pays contre cet accord. Les opposants à ce texte y voient une menace pour les libertés publiques. Sandrine Bélier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes eurodéputée Europe Écologie Les Verts. Jeanne Tadeuse, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargée des relations publiques à l'April, qui est une association de défense et de promotion du logiciel libre. On expliquera un peu ce que c'est d'ailleurs. Vous qui avez des questions, n'hésitez pas, hein, ça se passe sur Facebook et sur Twitter, allez-y. Alors avec vous, Sandrine Bélier, Jeanne Tadeuse, on va essayer de comprendre les enjeux de ce texte et pourquoi il inquiète tellement. Mais avant d'entrer dans les détails, petit résumé de l'ACTA, les objectifs affichés par les négociateurs et les problèmes qu'ils soulèvent. Explication de Corinne Pellissier.
Tout est parti en fait d'un constat, que ce soit les produits de luxe, les jouets, les brevets, les médicaments, il y a bien trop de contrefaçons dans le monde, d'où l'idée d'impliquer un maximum de pays autour d'un accord pour protéger la propriété intellectuelle au sens large. Le problème, selon Julie Jacob, avocate spécialisée dans le droit d'Internet, c'est qu'il n'est pas évident pour tout le monde de faire le lien entre un sac de luxe contrefait et un morceau de musique échangé sur Internet.
Je pense que l'inquiétude vient du fait que d'abord ce traité vise à protéger plein de droits, les produits, les services, les médicaments, les marques, qu'il y a une grande opacité autour des discussions qu'on menait à ce traité.
Et c'est bien ce qui a déclenché la suspicion des internautes. Un traité négocié pendant 2 ans dans le plus grand secret et en l'absence de tout organisme international. Pire que ça, le rapporteur du projet au Parlement européen a démissionné le mois dernier en dénonçant une mascarade. Même si les notions de liberté d'expression et de respect de la vie privée sont mentionnées noir sur blanc, beaucoup s'inquiètent à propos du volet Internet de l'accord.
Avec l'ACTA, les FAI, les fournisseurs à qui vous payez un accès à Internet seront forcés d'ouvrir et d'inspecter chaque paquet que vous recevez ou envoyez pour y chercher d'éventuelles données copyrightées. Cela signifie que si vous envoyez un fichier MP3 à un ami avec un logiciel de messagerie instantanée, uploader une vidéo d'une soirée où l'on entend de la musique copyrightée, votre compte est bon.
Des vidéos comme celle-ci, on en trouve des dizaines aujourd'hui sur Internet. C'est plutôt sain, mais attention à ne pas céder à la psychose. Le texte, premièrement, n'est pas sûr d'être ratifié par tout le monde. Et par ailleurs, selon Julie Jacob, il existe en France suffisamment d'organismes comme la CNIL capables de réguler les interventions abusives.
C'est bien que ces vidéos soient diffusées sur le web, parce qu'au moins ça fait prendre conscience à chacun de la traçabilité de nos navigations sur le web. En revanche, il ne faut pas non plus tomber dans l'alerte maximale. Rien ne dit qu'on va avoir l'ACTA qui va être en vigueur. On est au tout début. Il va falloir que ce soit ratifié par le Parlement, puis après transposé en droit interne.
Plusieurs des 22 pays européens qui ont signé l'accord le mois dernier commencent à faire machine arrière. C'est le cas de la Pologne et de la République tchèque, d'où sont parties les premières manifestations.
Explication signée Corinne Pellissier. Alors d'abord, un petit mot de l'agenda d'ACTA. On entendait cette avocate qui disait on est au tout début alors, du processus de ratification. En revanche, on est plutôt à la fin de la partie négociation. Le texte a donc été signé par la France et 21 autres pays d'Europe. C'est quoi les prochaines étapes, Sandrine Bélier, concrètement ?
Prochaine grande étape, c'est l'avis conforme qui sera rendu au Parlement, par le Parlement européen en mai ou en juin de cette année. Donc la prochaine étape, véritablement, ça va se jouer au sein du Parlement européen, qui est aujourd'hui, avec la pression citoyenne, une des dernières possibilités de faire obstacle à l'application de ce traité.
Alors, il y a eu effectivement des manifestations en Pologne, notamment. Il y en a demain en France et dans d'autres pays d'Europe. Jeanne Tadeuse, pourquoi est-ce que ce texte inquiète tellement, la communauté Internet au sens large ? Qu'est-ce qu'elle y voit de si problématique ?
Le principal problème qu'on voit avec le texte de l'ACTA, déjà, ça a été tout d'abord que le texte a été discuté de manière complètement opaque, c'est-à-dire qu'on a appris finalement par une fuite que le texte était discuté, puisque personne n'était même au courant de l'existence de ce texte. Après, c'est aussi le fait que les termes du traité, du texte qui est actuellement discuté, sont très vagues. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce que ça recoupe précisément. Quand on parle de responsabilités pénales intermédiaires techniques, nulle part on dit qu'ils sont des intermédiaires techniques. Est-ce que ça peut concerner, par exemple, les auteurs, éditeurs de logiciels libres? Est-ce qu'ils peuvent être mis en cause suite à ce texte? C'est la même question qui se pose d'ailleurs pour les fournisseurs d'accès à Internet.
Donc finalement, c'est aussi beaucoup le flou finalement qui apparaît comme très inquiétant, c'est ça Sandrine Bélier ?
C'est le flou et puis au-delà. C'est-à-dire qu'on nous dit que c'est un traité anti-contrefaçon. Donc initialement, il s'agissait de protéger les biens matériels, les objets de marque. La contrefaçon, c'est la reproduction à l'identique et l'usurpation d'une marque. Et finalement, on se retrouve avec un traité qui gère tous les brevets et tout ce qu'on va pouvoir breveter demain. Donc c'est du brevetage de la molécule, du processus, de l'idée intellectuelle, etc. Enfin, et on en arrive à la question du net, à la question de la culture, à la question de la musique. Enfin, vous imaginez bien, les Monty Python par exemple. Quand on fait une caricature d'une œuvre artistique, est-ce que c'est une contrefaçon ? C'est-à-dire que là, on ouvre la porte à un monde où tout pourra être propriété intellectuelle. Des grosses firmes auront la propriété intellectuelle sur les idées, sur les médicaments, sur l'accès à Internet. Et puis, on redécoupe la carte mondiale avec les pays qui auront les brevets et les autres.
Donc extension effectivement du domaine de la propriété intellectuelle dont les frontières sont repoussées, ça pose tout un tas de problèmes, on va en reparler, notamment sur la question des médicaments génériques. Vous restez en direct avec nous, Jeanne Tadeuze et Sandrine Bélier. On se retrouve après une petite ode à la liberté façon Soup Dragons, ça s'appelle I'm Free.
I'm free to do what I want, any old time. What I want any old time. I say, love me, hold me, love me, hold me, 'cause I'm free. Do what I want any old time. And I'm free to be what I choose. Any old time. I say, love me, hold me, love me, hold me, 'cause I'm free.
C'était Soup Dragons sur le Move où il est 8h26.
Les Polonais continuent à manifester contre l'ACTA. Hier soir, pour la quatrième journée, ils envahissaient les rues de Poznan. Il semble qu'ils soient les seuls Européens à dénoncer l'ACTA, cet accord commercial anti-contrefaçon signé jeudi à Tokyo par 22 pays de l'UE et d'autres partenaires internationaux.
Voilà, je crois que ça c'était le 21 janvier dernier, donc effectivement manifestation en Pologne, il y a eu aussi en Tchéquie. Ça arrive seulement dans les autres pays. Sandrine Bélier, comment ça se fait finalement que les Polonais soient les premiers à s'être mobilisés sur cette question-là ?
Ah, c'est une question intéressante. Je pense qu'il n'y a pas de vérité absolue, mais c'est vrai que c'est assez intéressant de constater que ce sont plutôt les pays de l'Est, pays anciennement communistes, qui se soulèvent les premiers. Vous avez parlé de la Pologne, la République tchèque, en effet, l'ambassadrice de Slovaquie, qui a même écrit une lettre d'excuse à ses enfants quand elle a pris conscience de ce que pouvait et des incidences que pouvait avoir ACTA sur l'avenir. Et puis on a la Roumanie qui est en train de bouger un peu. Donc c'est vrai que c'est assez surprenant que ça vienne plus tôt. de l'Europe de l'Est. Mais très certainement, oui, il y a cette prise de conscience de l'atteinte aux libertés publiques qui ont été si difficilement auxquelles ils se sont battus pour y accéder assez récemment, que ce soit la liberté d'expression, l'accès à l'information et le fait aujourd'hui de se dire mais si on revient dans un régime où on nous dit ce que vous avez le droit de voir, voilà ce que vous avez le droit de dire, maintenant dans vos échanges on va les contrôler, on va vous dire ça c'est politiquement correct, ça l'est pas, ça c'est voilà, et il y a je pense que c'est lié à ça. Alors on pourrait pas en faire une vérité absolue, puisque, et vous le savez, par exemple, et toujours à l'Est, on a ces reculs, et la population s'est pas forcément levée tout de suite en Hongrie, par exemple, avec la présidence d'Orban.
On va rentrer un peu dans les détails donc de ce texte et des raisons pour lesquelles il inquiète. On l'a compris. Hein. Ce qui inquiète beaucoup finalement, c'est le flou général de ce qui est présenté. Il y a effectivement deux domaines où ça se mobilise pas mal, le logiciel libre et les médicaments. On reparlera des médicaments parce que c'est quelque chose vraiment de très important. Commençons par le logiciel libre, Jeanne Tadeuse. Alors déjà, est-ce que vous pouvez expliquer brièvement ce que c'est, parce qu'il y a certains de nos auditeurs le savent, mais probablement pas tous.
D'accord. Oui, donc le logiciel libre, c'est un certain type de finalement de logiciel, c'est-à-dire ces logiciels qui sont sous licence libre, c'est-à-dire que vous pouvez librement étudier le code, vous pouvez librement le modifier, le redistribuer comme vous le souhaitez, et aussi distribuer les versions modifiées.
Et on peut librement le télécharger aussi.
Par exemple, ça fait partie de l'idée de partage. Le logiciel libre se reconnaît vraiment dans ses valeurs donc de partage et d'échange, et c'est l'idée que chacun peut finalement apporter sa pierre pour améliorer un logiciel.
Voilà, on peut citer par exemple les systèmes d'exploitation sous Linux qui sont en fait modifiés par une communauté d'utilisateurs. Ils sont d'accord entre eux pour le faire. En l'occurrence, il ne s'agit pas de contrefaçon. En quoi est-ce que le logiciel libre peut être menacé par ACTA ?
ACTA, tout d'abord, c'est finalement un des exemples d'un mouvement plus global qui dit que c'est ce qu'ils appellent la propriété intellectuelle, qu'on se reconnaisse ou non dans ce terme, c'est-à-dire que l'idée que chacune des idées, un logiciel ou peu importe, ça doit être quelque chose qui doit nécessairement être secret, payant, enfermé.
Et breveté.
Les logiciels ne sont pas brevetables actuellement en France, en Europe. Mais c'est l'idée que ce soit effectivement verrouillé. Et c'est aussi plus concrètement et plus directement pour le logiciel libre, ACTA, c'est pose le principe du verrouillage et de la sacralisation des DRM. Donc les DRM, c'est ces mesures techniques qu'ils appellent dites de protection, qui en fait sont vraiment des verrous numériques qu'on retrouve sur un certain nombre d'œuvres dématérialisées,
notamment la musique,
les livres électroniques, les jeux vidéo, sur énormément de supports. Et ACTA pose le principe qu'on n'a pas le droit de les contourner. C'est-à-dire que pour pouvoir lire votre musique, pour pouvoir lire votre livre électronique, il faut impérativement, par exemple, que vous utilisiez le logiciel qui est exigé par l'éditeur. Et si vous voulez utiliser un autre logiciel ou que vous devez utiliser un autre logiciel, par exemple parce que votre ordinateur n'est pas compatible, vous n'avez plus le droit de le faire, tout simplement.
Voilà, c'est ce qu'on appelle le problème de l'interopérabilité. Et effectivement, ACTA ne va pas précisément dans le sens de l'interopérabilité. On va continuer à parler de ce texte, des craintes qu'il soulève et de pourquoi, d'ailleurs, il y a des mobilisations pour lui faire échec, notamment demain. On vous retrouve Sandrine Bélier et Jeanne Tadeuse dans quelques minutes.
Le 7-9 du Move avec Amel Guitton.
Pour le moment, il est 8h30, c'est le rappel des titres avec Anne-Laure Bouzy. Il sera à la une du Figaro Magazine demain.
Et oui, Nicolas Sarkozy parle dans cette interview de ses valeurs pour la France. Il promet notamment un référendum sur l'indemnisation des chômeurs et sur le droit des étrangers. À Orléans, dans le Loiret, François Hollande a ironisé sur l'organisation de référendum et a évoqué, lui, son programme pour la jeunesse et l'éducation. La Cité Radieuse, le célèbre bâtiment construit à Marseille par Le Corbusier, a été la proie des flammes encore cette nuit. Pas de blessés graves, mais des dégâts considérables. Les 1200 occupants ont dû quitter leur immeuble. La Grèce va connaître un effacement de la dette sans précédent après deux semaines de rudes négociations avec leurs créanciers publics et privés. Le pays demande à Bruxelles de débloquer le deuxième plan d'aide de 130 milliards d'euros. L'Argentine va présenter aujourd'hui une plainte devant le Conseil de sécurité de l'ONU. L'Argentine qui dénonce la militarisation britannique aux Malouines. Inauguration hier à Tanger au Maroc de la nouvelle usine Renault. À terme, 30 000 Marocains devraient y travailler directement ou indirectement. Du sport, du tennis, ce soir, premier tour de la Coupe Davis. La France affronte le Canada à Vancouver. Premier match à 23h.
Petit coup d'œil à la météo.
55 départements, vigilance orange, neige et verglas. Il y a du soleil, mais ça va pas suffire. Hein. Les températures restent très froides. Moins 5 à Paris et Biarritz ce matin. 3 degrés à Marseille et Bordeaux cet après-midi. Et moins 1 à Lyon.
Dans quelques minutes, on retrouve Sandrine Bélier et Jeanne Tadeuse pour continuer à parler d'ACTA. D'abord, un peu de musique. Il se trouve qu'en anglais, liberté et gratuité, ça se dit de la même façon, libre et gratuit, autrement dit free. Everything for free, c'est signé Case Choice sur le Move. For free, c'est signé et Case Choice sur le Move.
Bon, récapitulons.
Une sorte de rendez-vous périodique.
C'est la radio qui vous l'a donné.
En voulez-vous un exemple?
C'est quoi que vous écoutez là?
Carla Bruni.
Oui, bah, il se trouve que c'est ma femme. Alors on va vérifier si vous avez acheté le CD.
En fait, c'est un ami qui l'a gravé pour ma fille.
Oui, mais madame, si tout le monde fait comme vous, 99 centimes d'euros par 99 centimes d'euros, comment ils vont me payer des Rolex, les artistes, si on ne leur file pas leur argent?
Voilà, c'était le petit clin d'œil des guignols. On continue à parler d'ACTA avec vous, Sandrine Bélier, eurodéputée Europe Écologie Les Verts, et avec vous, Jeanne Tadeuse, chargée des relations publiques à l'April, association de défense et de promotion du logiciel libre. On en a dit un mot tout à l'heure, hein, effectivement, le flou dans ce texte ACTA pourrait mettre en péril l'économie du logiciel libre, tout simplement. Il y a aussi un autre secteur où ce flou pose un vrai problème, c'est celui du médicament, parce que effectivement, est-ce que les médicaments génériques risquent d'être considérés comme des contrefaçons ou pas, Sandrine Bélier?
Au regard du texte aujourd'hui, oui, il y a un certain nombre de médicaments génériques qui pourraient être considérés comme des contrefaçons, et ce qui pose un problème. Ce qu'on voit bien, la contrefaçon sur un médicament, c'est par exemple, là on entendait les guignols nous parler de Rolex, sur les médicaments, c'est par exemple un médicament qui imite mal le Viagra. Pas de lien direct entre la Rolex et le Viagra, mais c'est l'exemple qui m'est venu à l'esprit, je vous prie de m'en excuser. On voit bien, voilà, on revendique une marque ou autre. Là, le texte nous dit, si on en fait la lecture simple, qu'une simple suspicion, donc d'une firme nationale qui aurait des brevets sur un certain nombre de molécules et de médicaments, qui alerterait les douanes, permettrait de bloquer, voire de détruire, en fait, tout un chargement de médicaments. Sur une simple suspicion. Et ça, c'est un autre problème du texte. Cette idée de suspicion, on va la retrouver dans tous les domaines, que ce soit du coup dans le domaine informatique, dans le domaine des médicaments, viendra potentiellement aussi la question des semences, la question de l'agriculture, l'alimentation. On passe de la présomption d'innocence, avec un certain nombre de règles où il s'agissait de démontrer qu'il y avait une infraction, à la suspicion et la criminalisation immédiate et quasi automatique.
Oui, finalement, le problème, c'est de tracer quasiment un trait d'égalité entre un sac Vuitton et un médicament générique. Alors, à titre d'exemple, ça, c'était dans un article de Florent Latrive, paru en 2010 dans Le Monde Diplomatique. Il citait le cas de molécules anti-VIH pour le Nigeria, qui ont donc été bloquées dans un port néerlandais en 2009. On pourrait aboutir à ce genre de situation de manière récurrente.
Les premières victimes et la question sur l'accès aux médicaments se posent en effet pour les pays du Sud aujourd'hui.
Alors, l'un des principaux problèmes soulevés par ACTA, c'est l'opacité du processus démocratique, effectivement, puisque ça a été élaboré d'abord en secret et qu'ensuite seulement présenté aux organisations internationales et enfin en tout cas aux organisations représentatives comme le Parlement européen. Et quelle est la marge de manœuvre aujourd'hui, par exemple, du Parlement européen vis-à-vis de ce texte ?
Opacité, oui, c'est peu de le dire, hein. C'est rocambolesque hein, depuis 3 ans. Aujourd'hui, la marge du Parlement européen, elle est limitée. Enfin, en tout cas, pour ce qui est des écologistes, on va jusqu'au bout tenter de sensibiliser et amener l'ensemble et un maximum de nos collègues parlementaires à prendre le parti des citoyens, le parti de la défense des libertés publiques, le parti de la défense de l'intérêt général contre les intérêts particuliers des plus grosses firmes internationales, que ce soit dans l'agroalimentaire ou dans le domaine de l'informatique. Je vais juste faire une digression parce que je trouve que c'est assez éclairant. Quand on sait que c'est Bill Gates et Microsoft qui aujourd'hui, avec sa fondation, finance Monsanto sur le développement des organismes génétiquement modifiés en Afrique. Et donc on voit que sur les thématiques et sur ces domaines de brevetabilité, vous avez des firmes comme Monsanto et Microsoft qui se retrouvent à avoir des intérêts assez communs. Aujourd'hui, le rapport de force au Parlement, je vous le disais, ça va être difficile puisque globalement, on peut s'attendre à ce que la droite européenne vote pour le texte, sous la pression des lobbies industriels. Quant aux libéraux et socialistes, ils sont encore assez partagés sur la question. C'est la raison pour laquelle la mobilisation citoyenne est ultra importante aujourd'hui pour pouvoir rappeler les droits des citoyens et faire pression sur les représentants politiques au sein du Parlement européen. En espérant que, comme aux États-Unis, sur PIPA et SOPA, quand on a 7 à 8 millions de citoyens qui s'opposent à un texte, finalement, on a le personnel politique qui fait un pas en arrière et puis qui se dit « Ah, peut-être que les citoyens comptent plus que ces grosses firmes commerciales. »
À ceci près que, par rapport à SOPA et PIPA, justement, il y a aussi des grosses firmes hein, qui se sont mobilisées contre. On peut citer Facebook, on peut citer Google. Il n'y a pas d'équivalent de ça en France ou en Europe, Jeanne Tadeuse. D'entreprises qui disent attention, c'est une menace pour les libertés.
D'entreprises de la taille, effectivement, de Google, de Facebook, qui sont exprimées publiquement, qui ont lancé même un blackout pour montrer leur opposition, effectivement, il n'y en a pas. Après, on peut voir quand même de nombreuses plus petites entreprises ou de nombreux acteurs entrepreneuriaux qui sont contre parce que ça pose de grandes difficultés. Pour parler d'un secteur que je connais bien, dans le secteur du logiciel libre, il y a quand même de grandes entreprises pour lesquelles un texte comme ACTA poserait de grosses difficultés.
Et alors, il y a aussi évidemment la société civile. Donc, April, vous en parlez beaucoup d'ACTA. Il y a aussi la Quadrature du Net, par exemple, qui aujourd'hui travaille sur cette question.
Effectivement, la Quadrature du Net et nous, l'April, on travaille beaucoup, principalement sur l'aspect Internet et numérique. Après, il y a aussi d'autres associations qui travaillent sur l'aspect plus médicaments. Ça va être, par exemple, ACT UP, ça va être aussi Oxfam qui sont mobilisés sur ces questions. Voilà, globalement, il y a quand même un certain nombre d'associations qui sont de plus en plus mobilisées sur ces questions-là.
Oui, je crois qu'il y a aussi Médecins Sans Frontières, voilà. D'ailleurs, sur la question des génériques. Sandrine Bélier, qu'est-ce qui va se passer maintenant au Parlement européen ? J'imagine que vous allez essayer justement de chasser les zones de flou. Votre position d'ailleurs en tant qu'Europe Écologie Les Verts, c'est qu'il faut un accord commercial pour lutter contre la contrefaçon ou pas ?
Au stade où on en est, il ne s'agit plus de chasser les flous, c'est stopper ce texte. Point. on le remet sur la table. Il y a, pour nous, s'il y a une vraie question, si la contrefaçon est une vraie question, l'ensemble des solutions telles qu'elles ont été apportées ne sont pas les bonnes solutions. Et on a d'autres solutions. On a les logiciels libres, en effet. On a la possibilité de développer la licence participative. Enfin, il y a un certain nombre d'outils. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est que les choses soient remises sur la table, qu'elles soient soumises au débat public, qu'on puisse confronter les différentes solutions qui nous permettent de préserver les intérêts du plus grand nombre.
Effectivement, confronter les points de vue. Vous restez avec nous, Sandrine Bélier et Jeanne Tadeuse. Vous allez répondre dans quelques minutes aux questions de nos auditeurs. Pour le moment, on ne devrait pas normalement écouter un petit titre. Si, ah bah si, si, il va partir. Je ne le voyais pas. Il est là. C2C avec Down the Road.
To go. Have no place to go. Darling, have no place to go. Have no place to go.
C'est C2C et ça donne Down the Road.
7h, 9h, Amel Guiton sur le Move.
Il est 9h moins le quart, bonne matinée à tous. C'est l'expresso de l'info, un référendum sur les obligations des chômeurs, un autre sur le droit des étrangers. Proposition du presque candidat Nicolas Sarkozy dans une interview au Figaro Magazine à paraître ce week-end. François Hollande a dénoncé la stigmatisation des populations les plus fragiles. Une deuxième mise en examen pour Éric Woerth, l'ancien ministre et ancien trésorier de l'UMP, a été de nouveau entendu hier par les juges. Il est désormais soupçonné de recel. De l'argent en espèces aurait pu lui être remis par le gestionnaire de fortune de Liliane Bettencourt. Et puis la Grèce a jusqu'à mercredi 15 février pour répondre aux exigences des dirigeants européens. Elle doit notamment trouver 325 millions d'euros d'économies budgétaires pour espérer toucher l'aide promise en octobre dernier.
Pourquoi tous vos invités sont là ?
Oui, il n'y aura absolument aucune défection. En ce qui me concerne, j'ai un certain nombre de questions à poser.
Je crois que tout peut arriver dans cette émission, c'est ce que j'espère.
Ils se sont donnés rencard sur les bords du lac Léman, bien à l'abri des regards, évidemment, pour préparer une loi sans inviter les parlements. Ils ont inventé ACTA tout simplement.
Alors ça, c'est ce qu'on peut entendre sur le site de Mediapart. C'est une jeune chansonnière qui s'appelle La Parisienne Libérée. Toujours en direct avec nous, Sandrine Bélier, eurodéputée Europe Écologie Les Verts, et Jeanne Tadeuse, chargée des relations publiques à l'April, l'association de défense et de promotion du logiciel libre. Quelques questions de nos auditeurs. Question d'Adrien. Qui soutient ACTA en France ?
Oh là là,
Sandrine Bélier.
Moi je dis oh là là parce que Quand on parlait d'opacité, c'est ça qui est d'ailleurs un peu compliqué, c'est que qui soutient qui négocie quoi, on a un peu de mal à y voir clair. Alors il y a un forum là pendant 2 jours, forum européen sur la propriété intellectuelle. Moi j'y interviens cet après-midi, et justement en face, en tout cas on va confronter, lancer l'idée avec l'ensemble des pro-ACTA, donc je pourrais vous en dire un peu plus dans quelques jours.
Donc il faudra identifier les pro-ACTA.
Je sais pas si on va pas non plus tomber. Je crois que ça suffit le fait d'opposer les uns aux autres. On sait qu'il y a un certain nombre de firmes internationales, de personnes qui ont des intérêts particuliers, qui soutiennent ce texte. Aujourd'hui, remettons la question de l'intérêt général, remettons l'intérêt public au centre des discussions. Point. Qui était pour hier, qui était contre aujourd'hui. J'ai envie de dire que demain tout le monde soit contre et point.
Effectivement, ça a le mérite d'être clair, Sandrine Bélier. Question de Aude, les gouvernements n'ont pas le contrôle d'Internet. Est-ce qu'ACTA, ce serait pas un moyen, justement, d'avoir la main mise sur Internet?
C'est l'inverse. Moi, je veux juste le dire en une phrase. Ah. Le sentiment que j'ai avec ACTA, c'est que c'est justement l'inverse. C'est le dernier acte d'abandon du pouvoir politique, de la force publique, du pouvoir public au pouvoir économique. On se dessaisit des politiques alimentaires, on se dessaisit de la politique culturelle, on se dessaisit de la politique de santé en laissant la mainmise par cette logique de brevet aux firmes agroalimentaires, à Microsoft, à toutes ces grosses industries mondiales qui vont définir ce qu'on pourra consommer, ce dont on pourra se servir, etc.
Jeanne Tadeu, vous êtes d'accord avec ça? C'est un abandon du politique, finalement, de passer par un texte comme celui-là?
C'est un double contrôle, donc il y a effectivement cet aspect d'abandon, parce qu'on a ACTA qui est un texte international sur lequel il sera très difficile de revenir, qui en plus instaure un comité ACTA qui sera lui libre de modifier le texte s'il le souhaite, et donc d'imposer éventuellement de nouvelles règles.
Mais ça serait qui dans ce comité?
C'est les différents pays, des représentants des différents pays, donc sans aucun contrôle démocratique d'aucun parlement, il y aurait possibilité ensuite de changer les règles et pourquoi pas de les durcir et de les renforcer. Donc il y a un abandon effectivement à ce niveau-là, en tout cas un abandon démocratique, et en même temps ça traduit aussi l'espoir de certains gouvernements de pouvoir contrôler ce qui se dit et ce qui se fait sur Internet, parce que ça permettra tout simplement d'obliger l'ensemble des intermédiaires qui permettent d'avoir une connexion, de bloquer, de filtrer, et finalement d'avoir un Internet civilisé, pur, sans aucune des contestations qu'on peut y voir actuellement.
Alors, une dernière question de Pierrot, qui demande, les constitutions en Europe, justement, est-ce qu'elles ne défendent pas les libertés individuelles et la vie privée? Est-ce que donc ça ne serait pas suffisant?
Alors on va se dire très clairement, on a plusieurs études d'éminents juristes, de constitutionnalistes qui ont démontré que le texte en l'état porte atteinte, viole la Convention européenne des droits de l'homme et la Charte des droits fondamentaux. Donc oui, on a un certain nombre de constitutions, de textes qui définissent nos libertés. Maintenant, il s'agit notamment pour l'ensemble des responsables politiques d'en assurer la protection et de pas aller dans le sens de leurs restrictions. C'est vraiment ça l'enjeu de ce traité.
Mais ce qui veut dire que, mettons par exemple qu'effectivement ACTA soit ratifié par les différents pays européens, ça pourrait quand même à un moment donné être retoqué par un recours auprès de la Cour européenne des droits de l'homme.
Alors ça c'est assez amusant, oui, ça pourrait être retoqué auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, ça pourrait être retoqué auprès de la Cour de justice des communautés européennes. Et je dis c'est amusant parce qu'il y a un certain nombre de députés européens qui aujourd'hui se défaussent un peu de leur responsabilité, disent « Ah, mais qu'on envoie la question à la Cour de justice des communautés européennes et puis on verra. Si c'est vraiment illégal, alors on n'ira pas. » Oui, bon, on peut s'épargner encore une fois un petit peu de temps et prendre les décisions qui vont dans le bon sens. Je crois, je vais me permettre, parce qu'on c'est l'actualité, on est aussi dans quelques mois sont les élections présidentielles. C'est un sujet d'importance, ce sujet d'ACTA, parce que derrière, il nous engage dans une vision, une perspective de l'avenir. Comment on imagine Internet, comment on imagine la préservation de nos libertés publiques et numériques. Je crois que ce sera intéressant que les candidats se prononcent sur ce traité, et en tout cas pour la candidate écologiste Eva Joly, c'est déjà fait et c'est très clair. C'est une opposition sans aucune réserve.
Enfin, on sait aussi que que Kadopi maintenant donne lieu à des prises de position de la part du candidat socialiste, même du candidat du Modem, hein, François Bayrou, qui est pour son abrogation. Une toute petite question, Jeanne Tadeuse, on entendait tout à l'heure dans le sujet de Corinne Pellissier, cette avocate Julie Jacob qui dit qu'il y a aussi la CNIL en France. Est-ce que la CNIL peut protéger des intrusions dans la vie privée qu'ACTA pourrait entraîner?
Écoutez, ça semble peu probable, ne serait-ce que parce que la CNIL n'est pas compétente pour dire non à un texte international, tout simplement pour un respect de hiérarchie du droit, elle va devoir l'appliquer. Donc, ne serait-ce que pour ça, elle ne va pas pouvoir le faire. Et puis en plus, on peut mal imaginer la CNIL, quelle que soit l'importance qu'elle peut avoir sur certains dossiers, de pouvoir traiter l'ensemble des problématiques qui pourront intervenir en termes d'atteinte à la liberté d'expression sur Internet.
En tout cas, voilà, on espère avoir fait un minimum la lumière hein, sur ce texte. C'est maintenant que ça se joue, c'est maintenant que ça se discute, puisque c'est maintenant que le processus de ratification est lancé. Merci Sandrine Bélier et Jeanne Tadeuse d'avoir été nos invités et d'avoir contribué à éclairer donc cette épineuse question d'ACTA dont on n'a probablement pas fini de reparler. Merci beaucoup.
Merci à vous. Merci.